C'est heureux de se retrouver ensemble dans la présence du Seigneur. Merci à l'accueil de chacun d'entre vous. Vous avez eu certainement écho des derniers événements en Israël. Et on en parlait un petit peu avec mon épouse et on disait que ce serait bien d'avoir un petit moment de prière, si vous voulez, en faveur d'Israël. On a aussi des frères et sœurs qui sont là-bas. Voilà, c'est une situation compliquée, non seulement pour le pays, mais aussi peut-être pour l'ensemble du monde dans lequel on se trouve. Et donc, on pourrait avoir un petit moment de prière que, voilà, simplement, librement, tellement d'autres sujets de prière. Je vous invite à ouvrir la Bible dans le livre de Josué, au chapitre 1er. On va lire à partir du verset 1er. Et on va lire jusqu'au verset 9. Livre de Josué, chapitre 1er, verset 1er. Je vais profiter encore de l'écran là, qui est devant moi. Voilà, il est dit ceci. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. En agissant, fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre ? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Et donc nous pouvons arrêter là la lecture. La Bible n'est utile que si nous la personnalisons. C'est-à-dire que lorsque nous lisons la Bible et que nous lisons un passage comme celui-ci, qui est d'ailleurs un passage très personnel, qui est très ciblé, puisque on sait, vous l'avez compris, que ici le Seigneur s'adresse à Josué. Donc, il n'y avait personne d'autre à ce moment-là qui était concerné par ce que Dieu disait. Et bien évidemment, Josué a dû recevoir ce message-là pour lui. Je ne sais pas s'il l'a mis en pratique, mais enfin, tout du moins, il a su ce que le Seigneur attendait de lui. Quand j'ai lu ce passage de la Bible, je me suis dit qu'après tout, nous pourrions facilement nous mettre à la place de Josué. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et dire que, après tout, ce que le Seigneur dit à Josué, je vais y venir en détail pour chacun d'entre nous, mais ce que Dieu dit à Josué ici, le but c'est quand même de le prendre pour nous. C'est pas de dire, ben c'est bien ce que Dieu a dit à Josué, ça a dû lui faire du bien, mais moi ce qui m'intéresse c'est de savoir ce que le Seigneur peut nous dire et ce qui peut nous faire du bien. Vous savez qu'il y a un homme dans la Bible, enfin un jeune homme d'ailleurs, qui le jeune Samuel, qui dans son jeune âge va avoir le désir d'entendre Dieu lui parler. Il ne va pas attendre que les années passent, mais on ne sait pas quel âge il avait à ce moment-là, mais à un moment donné, vous connaissez l'histoire, il va dire au Seigneur, parle Seigneur, car ton serviteur écoute. Et j'ai dit il n'y a pas longtemps à Dieppe que tant qu'il y aura des gens pour écouter, Dieu continuera de parler. Mais si un jour il n'y a plus personne pour écouter, c'est-à-dire que si personne ne fait attention à ce qui est dit du haut de l'estrade, moi j'ai le sentiment que Dieu pourrait se taire. Et la pire chose qui pourrait nous arriver à nous chrétiens, c'est que Dieu se taise. Et qu'on n'ait plus rien à dire, et qu'on dit, voilà, on vient, mais... Ce qui serait intéressant, c'est de savoir à la fin de la réunion, est-ce que nous serions capables de dire... ce matin, le Seigneur m'a parlé. Ou bien de dire, j'ai rien reçu, c'est comme si Dieu n'avait pas parlé. Et je trouve que c'est très intéressant pour nous, en tant que chrétiens, de venir avec la faim et la soif que Dieu nous parle. On ne vient pas à la réunion pour occuper une chaise, on vient pour que le Seigneur nous parle, parce que nous avons besoin de sa parole, et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi, à mon avis, nous avons besoin de sa parole, et ce que le Seigneur nous dit, et ce que le Seigneur a dit à Josué, eh bien, il va aussi, quelque part, donner la possibilité à Josué de le mettre en pratique. C'est pour ça qu'on dit toujours que Dieu ne dit pas des choses que nous ne serions pas capables de mettre en pratique. Il dit, et il nous donne en même temps la capacité de le mettre en pratique, que son Saint-Nom soit béni. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais encore dire ceci, c'est que les paroles adressées à Josué ont été uniquement des paroles de réconfort. Vous pourrez le relire à la maison, il n'y a aucun reproche dans les paroles de Dieu à Josué, il n'y a aucune réflexion, bien qu'on accepte aussi, après tout, que s'il le faut, que le Seigneur nous donne... fasse quelques reproches parfois ou éveille notre attention sur telle ou telle chose, mais ici ce sont essentiellement des paroles de réconfort. Et certainement qu'au moment où Dieu, où le Seigneur s'adresse à Josué, certainement que celui-ci avait besoin uniquement de paroles de réconfort. Dans une église, il faut de tout. Dans un message, faut de tout. Parfois, nous avons besoin de réconfort. Parfois, nous avons besoin d'être repris, bien que j'aime pas trop. Un jour, un frère disait dans sa prière, « Seigneur, reprends-nous s'il le faut. » Mais moi, je suis un peu allergique à ça, parce que je considère que même si le Seigneur nous reprend, il le fait tout en nous réconfortant. Pour que le message passe. Mais je ne suis pas contre, il faut de tout, et on est prêt à dire, Seigneur, eh bien, je suis là pour entendre ta voix, et non pas pour entendre uniquement ce qui me plaît. Néanmoins, concernant Josué, c'est vraiment une parole de réconfort, et je suis sûr, mes frères et sœurs, que dans notre quotidien, nous avons besoin de réconfort. Non seulement de réconfort spirituel, peut-être on a besoin de réconfort physique, de réconfort moral, on a besoin de réconfort pour une raison ou pour une autre, même si quelquefois on ne montre pas qu'on a besoin d'être réconforté, on sait très bien qu'au fond de notre cœur et à cause de certaines circonstances que nous vivons, nous avons besoin d'être réconfortés, que le nom du Seigneur soit béni. Donc je vais détailler avec vous ce que le Seigneur a dit à Josué, et vous allez le prendre pour vous. Et vous allez sortir de ce lieu de culte en disant, eh bien, ce que Dieu a dit à Josué, il me l'a dit à moi aussi ce matin, et je vais essayer dans la semaine de me tenir à ce qui est écrit ici. Quelle est la première chose que le Seigneur dit à Josué? Je vais commencer par là. Il lui dit... Fortifie-toi et prends courage. C'est une des premières choses, une des premières paroles que le Seigneur va adresser à Josué. Et je me suis posé la question, je me suis dit que, après tout, c'était certainement la première chose que Josué avait besoin d'entendre. Et il me semble que pour aller plus loin dans le plan de Dieu, Josué avait besoin d'abord d'entendre le Seigneur lui dire, fortifie-toi. Et prends courage. J'ai souvent dit, quand j'ai prêché sur ce thème-là, que nous sommes tous d'accord pour dire que parfois le Seigneur nous fortifie. On est d'accord ou pas? Il nous fortifie par les chants, il nous fortifie lorsque nous prenons la Sainte Cène. Et vous savez bien que nous disons souvent au Seigneur, Seigneur, viens me fortifier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, Seigneur, viens me rendre plus fort. Viens me donner, comme on l'a chanté, à la limite, viens me donner plus de joie. Viens me donner plus de force dans ma vie spirituelle. Viens me donner plus d'énergie, plus de zèle. Il y a une quantité de choses que l'on peut demander au Seigneur qui se résument dans ce verbe-là, le verbe fortifier. Et nous disons souvent au Seigneur, Seigneur, viens me fortifier, viens me donner de nouvelles forces. J'ouvre une parenthèse, je vais la refermer. Je me souviens d'une époque où on faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup de réunions. Et donc, comme on faisait beaucoup de réunions, il y avait une certaine fatigue qui se faisait ressentir. Si bien qu'à un moment donné, comme j'étais fatigué, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, fais comme tu as fait avec Élie. Vous savez ce qui s'est passé avec Élie au désert. Dieu l'a nourri et il l'a nourri de telle manière qu'Élie a pu retrouver des forces. Et donc j'ai dit au Seigneur, il faut que tu fasses comme ça parce que voilà, je suis fatigué, ça commence à peser. Et j'ai pas eu de vision, j'ai pas rien eu de tout ça, mais j'ai senti que vraiment le Seigneur me donnait de la force pour prêcher sa parole et pour continuer le rythme des réunions qu'on avait à ce moment-là. Et donc voilà une prière que nous pouvons faire, dire Seigneur, viens me fortifier, viens m'encourager. Mais avez-vous remarqué ici que ce n'est pas le Seigneur qui dit à Josué, vas-y mon garçon, je vais te fortifier, mais qu'il dit à Josué, fortifie-toi. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il y a des choses que Dieu fait et il y a des choses que Dieu ne fera jamais à notre place. Et non seulement Dieu dit à Josué, fortifie-toi, mais vous savez bien comme moi que Dieu ne dirait pas à Josué, fortifie-toi, s'il ne lui avait donné les moyens de le faire. Notre présence ici ce matin est une manière pour nous de nous fortifier. Peut-être que dans ce culte, nous n'allons pas nous sentir fortifiés par le Seigneur. Peut-être que, à la limite, il peut très bien ne rien se passer pour nous. Mais en venant à la réunion, nous avons pris la décision de nous fortifier. Je viens, Seigneur, je viens pour chanter, je viens pour prendre la Sainte Cène, je viens pour voir mes frères et sœurs, mais en venant dans ta maison, ce qu'on appelle la maison, hein, l'Église, en venant à l'Assemblée, eh bien, j'ai pris la résolution de me fortifier. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est pour ça qu'on dit toujours que on devrait sortir différent de ce que l'on est entré. On peut entrer fatigué. Peut-être qu'on est venu comme ça d'ailleurs. Hein, on est venu. J'espère que vous avez bien dormi. Mais à la limite, on peut avoir passé une mauvaise nuit ou on peut connaître des difficultés qui font que quand on est venu au culte ce matin, on s'est senti fatigué. Et ce temps que nous passons dans la présence de Jésus, dans la présence du Seigneur, va nous amener à nous fortifier. C'est un petit peu comme si on était venu chercher notre nourriture. Vous savez, on dit dans la prière enseignée par le Seigneur, donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Le pain quotidien, permettez-moi de dire ça comme ça, c'est pas forcément le pain qu'on met à la bouche, qu'on mange, voilà, c'est pas le pain qui nous nourrit seulement physiquement, mais c'est aussi le pain qui est descendu du ciel et qui donne la vie au monde. C'est ce que Jésus a dit, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel et qui donne la vie au monde. Et nous avons bien fait ce matin de venir ici pour nous nourrir, gloire à Dieu, du Seigneur et pour ressortir de ce lieu autre que nous y sommes entrés. Je suis rentré fatigué, eh bien je vais ressortir fortifié par le Seigneur. Je suis rentré lassé, je suis rentré peut-être découragé pour X raisons, mais je peux ressortir de ce lieu ayant reçu la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu, et ayant été fortifié dans mon corps, si c'est nécessaire, gloire à Dieu, et ayant été fortifié dans mon âme, dans mon esprit, et ainsi je peux affronter la semaine qui vient devant moi avec la grâce du Seigneur, que son nom soit béni. Donc ça, Josué l'a entendu. Il a entendu le Seigneur lui dire « Fortifie-toi, fais-le, tu as les moyens de le faire, tu as à ta portée ce qu'il faut pour te fortifier. » Avez-vous déjà remarqué, mes frères et sœurs, que la Bible dit, et pourquoi elle le dit, quand Paul dit « Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Qu'est-ce que ça veut dire « Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels » Ben, ça veut dire qu'on n'attend pas le dimanche matin pour chanter. On n'attend pas le dimanche matin pour s'entretenir par des psaumes, voilà ce que nous avons ici, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout notre cœur les louanges du Seigneur. Il y a de ça quelque temps, ça va vous faire sourire, mais il y a de ça quelque temps, je marmonnais, je chantonnais, voilà, je reprends l'expression de mon épouse, je chantonnais, c'est-à-dire je ne chantais pas vraiment à haute voix, mais je faisais et je prenais un cantique et puis je faisais soit à la maison, soit dans la voiture, et mon épouse me disait, parce que vous savez, c'est pas toujours facile avec elle, je rigole. Mais elle me disait, mais arrête de chantonner. Mais en faisant ça, en fin de compte, ça me fortifiait. Alors je le fais, mais quand elle n'est plus là. Mais je me fortifiais moi-même, je m'encourageais moi-même. Et c'est pourquoi la Bible dit, mais entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Et ça, on peut le faire, même quand on est au travail, quand on est en voiture. Bon, c'est vrai qu'on peut mettre aussi des CD, enfin, etc. Mais on a les moyens de se fortifier, comme le Seigneur l'a dit à Josué. Deuxièmement, c'est toujours à Josué que le Seigneur s'adresse et à nous en même temps. Il lui dit, prends courage. On ne dit pas à quelqu'un qui est en pleine forme, on ne lui dit pas prends courage, parce qu'il n'a pas besoin. On dit toujours « prends courage » à quelqu'un qui en a besoin, à quelqu'un qui est sur le point de perdre courage. Par exemple, quand on a amené à Jésus cet homme paralytique, vous savez qu'on a porté sur un grabat, La Bible dit, Jésus, en voyant leur foi, dit au paralytique, prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Et on comprend bien que la situation du paralytique était une situation décourageante. Donc on ne peut dire, prends courage, qu'à quelqu'un qui est en train de se décourager, à quelqu'un qui se trouve devant une situation décourageante. Et vous savez que quand on se trouve devant une situation décourageante, on a le réflexe de baisser les bras. Ça, c'est une expression que l'on connaît bien quand on perd courage. On dit souvent, eh bien, je baisse les bras. Mais quand on baisse les bras, eh bien, c'est là que nous avons besoin d'entendre la parole du Seigneur s'adressant à nous, nous disant, dans notre situation décourageante, la parole de Dieu s'adressant à nous, nous disant, prends courage. Je ne sais pas si Josué l'a fait. Certainement. Et si Josué devait prendre courage, c'est que il avait devant lui une mission assez importante, c'était de faire entrer le peuple d'Israël dans le pays de Canaan. Successeur de Moïse, c'était pas n'importe quoi. Et donc, pour ces deux raisons, étant successeur de Moïse et devant faire entrer le peuple dans le pays de Canaan, pour ces deux raisons, Josué avait, oui, Josué avait toutes les raisons de prendre courage. Notre frère, tout à l'heure, quand il est monté sur l'estrade, a dit, et j'ai retenu ça, et il a dit, c'est toujours impressionnant de se trouver là. OK? Et on aurait pu dire à notre frère, eh bien, prends courage. C'est vrai que quand on est sur l'estrade, bon, après des années, on a un petit peu l'habitude quand même, hein, mais quand on est sur l'estrade, il y a toujours une appréhension. Et quand on est ici, soit pour faire chanter, soit pour prêcher, on a toujours besoin de prendre courage, parce que ça n'est pas facile. Parce que ça n'est pas facile de s'adresser au peuple de Dieu, parce que ça n'est pas facile d'exhorter les autres, parce que ça n'est pas facile d'encourager les autres, parce que ça n'est pas facile de s'adresser aux autres. Alors Josué, qui lui aussi allait s'adresser aux autres, qui allait avoir une responsabilité vis-à-vis du peuple de Dieu, eh bien, avait besoin d'entendre ça de la part du Seigneur, fortifie-toi et prends courage. Et de la même manière que j'ai dit tout à l'heure, que Josué pouvait s'attendre au Seigneur pour le fortifier, eh bien, il devait aussi lui-même se fortifier. Et de la même façon que Josué pouvait s'attendre au Seigneur pour l'encourager, eh bien, vous notez avec moi que Dieu ne dit pas à Josué, t'inquiète pas, enfin, il lui a dit un petit peu plus haut, mais comprenez bien ce que je veux dire. Il ne lui a pas dit ici, ne t'inquiète pas, moi je vais t'encourager, mais il lui dit, toi, prends courage. Et comment un chrétien peut-il prendre courage? En se disant, comme la chanson, ça ira mieux demain? Non. Mais il prend courage en s'appuyant sur le Seigneur. Je suis en train de penser à cette histoire de David, qui un jour est parti en campagne militaire, et quand il est revenu dans une ville nommée Tsiklag, la Bible dit que les Amalécites avaient fait une invasion dans cette ville et ils avaient ravagé un peu tout, si bien que quand David va arriver là, il va se mettre à pleurer, et la Bible dit qu'il a pleuré jusqu'à ce qu'il n'ait plus la force de le faire. Et à un moment donné, il est dit ceci, David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. C'est-à-dire qu'il n'a pas considéré la situation décourageante, mais il s'est appuyé sur le Seigneur pour reprendre courage. Je ne sais pas d'ailleurs si certaines situations décourageantes vont changer. Mais ce qui peut changer, mes frères et sœurs, c'est que dans une situation décourageante, nous apprenions à reprendre courage en nous appuyant sur le Seigneur. C'était quand même David. C'était quand même lui qui avait terrassé Goliath. Et comment un homme qui a terrassé Goliath peut-il à un moment donné perdre courage? Parce que c'est un homme. On peut avoir connu dans la vie chrétienne de beaux succès. On peut avoir connu de belles bénédictions. On peut avoir connu de belles grâces. Et puis, voilà qu'arrive un temps où c'est le contraire qui se passe. On est en train de subir, on est en train de connaître l'inverse de ce que nous avons connu. Nous nous trouvons devant des situations décourageantes. Et le but, mes frères et sœurs, c'est pas de savoir si la situation va s'arranger. On espère que toute situation décourageante trouve une bonne issue. Mais le but, c'est pas forcément de dire « ça ira mieux demain, on espère que ça ira mieux ». Le but, c'est de se dire « eh bien, dans cette situation-là, la première chose que je vais faire, je vais reprendre courage en m'appuyant sur le Seigneur ». Il ne s'agit pas de se dire, voyez-vous, à la limite, il ne s'agit même pas de se dire à soi-même « allez, des fois, il faut se secouer un peu, ok ? Des fois, il faut se sortir de sa torpeur. Des fois, il faut se bouger un peu. Il faut se réveiller un petit peu sur le plan spirituel et pas sombrer dans le désespoir, dans le découragement. Faut se secouer un peu. Mais c'est pas comme ça que la Bible nous demande de faire. Elle nous demande de nous appuyer sur le Seigneur, de considérer la croix du calvaire, de considérer celui qui a souffert pour nous. D'ailleurs, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit ceci, « Considérez celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez pas l'âme découragée. » Voyez-vous, il y a un point de repère. De la même façon que David a repris courage en s'appuyant sur le Seigneur, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous invite à regarder vers Jésus qui, lui, a connu une somme d'adversités pour le décourager. Considérez celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs afin que vous ne vous lassiez pas l'âme découragé. Et je crois qu'il y a des chrétiens qui tiennent bon, non pas parce qu'ils sont meilleurs que les autres, mais il y a des chrétiens qui tiennent bon parce qu'ils regardent dans la bonne direction. Je prends souvent l'exemple que vous connaissez bien, l'exemple de l'apôtre Pierre sortant de la barque sur l'ordre de Jésus et marchant sur les eaux. Quel courage! Y a-t-il quelqu'un d'autre qui un jour est sorti de la barque pour marcher sur les eaux? Personne. Il a été le seul. Alors on peut dire tout ce qu'on veut de Pierre, on dit oui mais il a renié le Seigneur. On peut dire oui mais lui il agissait et puis réfléchissait après. C'est souvent ça, Pierre. Mais il a quand même été le seul à sortir de la barque. Et donc, quand il sort de la barque, mais il sort plein de courage, en disant, puisque c'est le Seigneur qui me l'a demandé, eh bien, j'y vais, je sors de ma barque et j'y vais. Et puis, quand il considère la force du vent, quel découragement! Et donc, on comprend la situation de ce disciple découragé devant la force du vent. Qui n'aurait pas été découragé à ce moment-là? Et puis, alors qu'il était en train de sombrer dans son découragement, je le dis comme ça, pour que vous compreniez bien, parce que ce n'est pas la peine d'être dans l'eau pour sombrer. Quelquefois, dans la vie chrétienne, sans eau, on est en train de sombrer aussi. Et donc, Jésus va faire une chose qu'il fait vis-à-vis de toute personne qui est en proie au découragement. Il tend la main vers Pierre. Il le saisit et il le sort de l'endroit qui voulait le retenir. C'en était fini de l'apôtre Pierre si Jésus ne l'avait pas saisi par la main. Et quelquefois, nous disons, mais comment j'ai fait pour tenir bon? Ben, si tu as tenu bon, c'est que le Seigneur t'a tenu par la main. Gloire à Dieu. Si tu as tenu bon, c'est parce que le Seigneur t'a tenu par la main. Sinon, ben, tu aurais sombré. Tu te serais complètement découragé, tu aurais été complètement raplapla. Mais au moment où tu étais en train vraiment de sombrer, alors le Seigneur a étendu la main, il t'a saisi et il t'a remonté. Je ne sais pas si on s'imagine Pierre remonter de l'eau, sortir de l'eau par la main puissante du Seigneur. Même s'il est vrai que Jésus lui a dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Que Dieu soit béni. Amen. Parce que je crois qu'il fait avec nous ce qu'il a fait avec l'apôtre Pierre. Et je crois aussi que le Seigneur fait avec nous ce qu'il a fait avec Josué. Peut-être que demain matin, quand vous lirez votre Bible, vous pourrez vous rappeler que le Seigneur a dit, eh bien, écoute, fortifie-toi et prends courage. On ne sait pas de quoi peut être fait une journée et on a besoin de nous fortifier et de prendre courage. Et puis, en lisant ce texte de la Bible, je me suis aperçu aussi que le Seigneur l'avait répété plusieurs fois. Avez-vous remarqué dans la lecture qu'à trois reprises, nous avons dit la même chose. Nous avons dit « Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. » Deux fois. Et un petit peu plus loin, « Fortifie-toi et prends courage. » Trois fois. Quand on dit, quand quelqu'un nous dit quelque chose plusieurs fois, soit que la chose est importante, si bien qu'il est nécessaire de la répéter, soit nous n'avons pas entendu la première fois, alors là, la personne nous le répète deux ou trois fois. C'est exactement ce que le Seigneur va faire avec Josué. Pourquoi Dieu a-t-il répété trois fois à Josué la même chose? Est-ce qu'il y avait de l'hésitation chez Josué, est-ce que le Seigneur s'est aperçu qu'en le disant une fois, ça ne fonctionnait pas vraiment? Et qu'il était nécessaire pour Josué de l'entendre deux fois, voire trois fois? Les chrétiens que vous êtes, et que je suis, peuvent dire que nous avons maintes et maintes fois entendu prêcher les mêmes textes, oui ou non? Le texte que nous sommes en train de partager ce matin, je suis persuadé que vous l'avez déjà entendu, peut-être des dizaines de fois, par différents prédicateurs, de différentes manières. Pourquoi est-ce que Dieu se répète? Est-ce que c'est parce que nous manquons de messages, parce que nous manquons de discours, parce que nous ne savons plus quoi dire, alors au moins nous répétons les mêmes choses, comme ça on est sûr de ne pas se tromper, ou bien est-ce que c'est parce que c'est nécessaire à certaines périodes de notre vie d'entendre les mêmes choses? Moi je crois ça. Je crois qu'il est nécessaire dans certaines saisons de notre vie d'entendre ce que le Seigneur a dit à Josué, « Fortifie-toi seulement » et est bon courage. On va commencer par là, si tu veux bien. Avant de faire entrer le peuple dans le pays, avant que tu prennes à bras-le-corps ta responsabilité, avant que tu sois capable de faire entrer le peuple dans le pays, la première chose par laquelle tu dois commencer, Josué, c'est de te fortifier et de prendre courage. Je ne sais pas, c'est pas ici que je l'ai dit, je ne pense pas, mais un jour je suis allé prêcher dans une assemblée et j'ai eu à cœur de commencer la prédication par cette phrase: prends du temps pour toi. Et quand j'ai prononcé cette phrase, prends du temps pour toi, il y a une jeune femme qui était dans l'auditoire qui aussitôt s'est mise à pleurer. Et je me suis dit, clac, ça a fait mouche. Parce que avant de prendre du temps pour les autres, prends du temps pour toi. Avant de t'occuper du peuple d'Israël, avant de le faire entrer dans le pays de Canaan, avant d'être capable d'accomplir la responsabilité que Dieu t'a donnée, prends du temps pour toi. Et le temps que tu vas prendre pour toi va te fortifier et va t'amener à prendre courage. Et donc Dieu va répéter ça à Josué. Quelquefois, on dit quelque chose à quelqu'un et puis on dit à la personne, tu te souviens de ce que je t'ai dit? Et la personne dit, ben non, je ne me souviens pas. D'où la nécessité de le répéter. D'où la nécessité de le répéter. Est-ce que nous avions oublié, mes frères et sœurs, cette parole de Dieu à Josué, fortifie-toi et prends courage. Est-ce que c'est pour nous un texte du passé? Est-ce que c'est pour nous un texte duquel nous pouvons dire, oui, je sais, Dieu me l'a déjà dit, mais entre le fait de ce que Dieu dit et de ce que nous faisons de ce que Dieu dit, ben, il peut y avoir un petit écart. On peut toujours entendre quelque chose que le Seigneur dit et ne jamais le faire. Quelqu'un peut nous dire quelque chose et on peut ne jamais le faire parce que ça ne nous intéresse pas, parce que ce n'est pas le moment, parce que ceci, parce que cela. Mais on peut aussi dire, mais après tout, ce que Dieu dit, mais il le dit dans quel but? Mais il le dit pour mon bien. Il le dit parce que ça m'est nécessaire. Et même si je le sais, voyez-vous mes frères et sœurs, même si je sais que c'est vrai, c'est bien que le Seigneur me le redise. Même si je dis, oui, je sais, on me l'a déjà dit, mais c'est bien que le Seigneur me le redise. Pour que je n'oublie pas cette vérité qui, de toute façon, aura des conséquences dans ma vie. Comme ça a eu des conséquences dans la vie de Josué, parce que vous savez, Josué, il a su quand même ce que Moïse avait enduré avec Israël. Donc il a dû se dire, voilà, ça va être compliqué quand je vois tout ce que Moïse a subi avec ce peuple-là, ça va être compliqué pour moi aussi. Et donc quand on se trouve devant une situation comme ça, on a vraiment besoin d'entendre le Seigneur nous dire, fortifie-toi et prends courage. Moi, je rends grâce à Dieu de ce que, je vais terminer par là, je rends grâce à Dieu de ce que le Seigneur n'a pas dit seulement à Josué, fortifie-toi. Parce que quand le Seigneur dit à Josué, prends courage, c'est non seulement qu'il laisse entrevoir une responsabilité. Quand on n'a rien à faire, on n'a pas besoin de prendre courage. Quand on a quelque chose de difficile à faire, il faut un petit peu de courage pour le faire. Vous connaissez l'expression « j'ai pris mon courage à deux mains ». Quelquefois, si on avait trois mains, ça nous aiderait en disant « j'ai pris mon courage à trois mains ». Quand on a quelque chose à dire à quelqu'un et que ce n'est pas agréable à dire, il faut prendre son courage à deux mains. Quand on veut s'afficher comme étant fidèle au Seigneur, malgré ce que les autres en pensent, faut prendre son courage à deux mains. Un jour, il y a un monsieur qui s'est converti. Alors, ne le prenez pas pour argent comptant, Mais le monsieur s'est converti et ses enfants avaient l'habitude, c'est un monsieur âgé, les enfants avaient l'habitude de l'inviter le samedi soir, que je dise pas de bêtises, ils avaient l'habitude de l'inviter le dimanche midi. Ils avaient l'habitude, voilà, ils avaient l'habitude de l'inviter le dimanche midi. Et le monsieur se convertit, se donne au Seigneur, et comme il était invité le dimanche midi, c'était difficile pour lui de se rendre au culte pour aller chez les enfants après. Donc il a pris son courage à deux mains. Il est allé voir ses enfants, et il leur a dit, écoutez, si vous voulez m'inviter, vous m'invitez un autre jour que le dimanche, parce que le dimanche, je vais au culte. Il y a peut-être des gens qui auraient dit, frère, vous ne me verrez pas au culte parce que je vais manger chez mes enfants. OK? J'ai rien contre, hein, surtout. Hein. Mais voyez-vous, quelquefois, il faut prendre son courage à deux mains et dire, Seigneur, eh bien, voilà, je me fortifie, je prends courage. Et Dieu dit à Josué, on l'a lu ensemble, pour agir fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Donc c'est vrai que quelque part, Josué voulait être fidèle à Dieu. Et quand on veut être fidèle à Dieu, quelquefois, ça nécessite, dans certaines situations, de prendre courage. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté, ou selon ce que dit une autre traduction que je préfère, plutôt que d'habiter avec les gens sans foi ni loi. Je préfère. Ça ne veut pas dire que je ne fréquente pas les gens sans foi ni loi, ça ne veut pas dire que je ne fréquente pas les personnes qui ne sont pas au Seigneur, parce que sinon comment elles entendraient parler l'Évangile si je ne les fréquente pas. Mais s'il y a une préférence à avoir, je préfère me tenir sur le seuil de la maison de Dieu plutôt que d'habiter avec les gens sans foi ni loi. Alors je voudrais vraiment laisser ce message-là sur votre cœur et plutôt que de mettre le nom de Josué, mettre notre nom. Voilà, un tel, je ne vais pas citer vos noms, hein, je ne les connais pas, donc pour certains. Mais voilà, mettons notre nom. Notre prénom, à la place de Josué, ça prend une toute autre connotation. Si par exemple le Seigneur me disait, mon prénom c'est Dominique, pour ceux qui ne le sauraient pas, maintenant vous le savez, Dominique, fortifie-toi et prends courage. Mettez votre prénom. C'est différent. Parce que là, on quitte le terrain de Josué et le Seigneur vient sur notre terrain à nous et il dit, voilà, tiens, j'ai un message pour toi ce matin que je vais te répéter trois fois. Fortifie-toi et prends courage. Que Dieu nous aide, amen, à nous fortifier en lui par Jésus-Christ, notre Sauveur, et à prendre courage. Merci au Seigneur pour les encouragements qu'il donne. Merci aussi pour les situations qui parfois semblent décourageantes parce qu'elles nous apprennent aussi à nous reposer sur le Seigneur. David reprit courage en s'appuyant sur le Seigneur, que son Saint-Nom soit béni. Amen. On rend grâce à Dieu ensemble. Alléluia. Seigneur, merci parce que nous pouvons encore ce matin nous reposer sur toi, Seigneur, nous fortifier, nous encourager en toi, fortifier dans la communion fraternelle, prendre courage les uns les autres en nous saluant les uns les autres. Te bénissons, Seigneur, pour ta ta bonne présence au milieu de nous. Nous te bénissons pour ta parole. Peut-être que quelqu'un a besoin dans cet auditoire de se fortifier. Peut-être que quelqu'un est rentré découragé, Seigneur. Peut-être que quelqu'un vit une situation difficile. Eh bien, à cette personne-là, tu dis, fortifie-toi et prends courage. Seigneur, comme tu as dit à Josué, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Eh bien, nous voulons aussi prendre cette parole pour nous qui s'est accomplie déjà pour nous en Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé, qui est venu pour nous, qui a payé le prix pour nous, qui est ressuscité pour nous, qui prie pour nous. À toi, notre Père, soit toute la gloire, l'honneur et la louange dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.